Cette semaine au balado, les parents et la question des enfants trans, la souveraineté avec l'économiste Vincent Gelozo, la liberté des médecins menacée au Québec, la bourde de trop de Joe Biden, sans oublier votre grand enjeu de la semaine. Tout ça et bien plus dans votre libre podcast. Bonjour et bienvenue à votre libre podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine Libre Média. Je suis Francis Denis, votre animateur, en compagnie de mon collègue et rédacteur en chef à Libre Média, Jérôme Blanchet-Gravel. Jérôme, bonjour.
Bonjour Francis.
Notez que l'ensemble des sujets discutés au cours de ce balado sont également traités en format écrit sur le site internet de Libre Média au www.libre-media.com. Alors, cette semaine, sur le site, mon cher Jérôme, de Libre Média, un article intitulé « Enfants, entre guillemets, trans », deux points, très important, c'est cette ponctuation, « La primauté parentale est cruciale ». Alors, face à la multiplication de processus de changement de sexe au pays, notamment, souvent irréversible, et dommageable chez les jeunes, John Carpe du Centre juridique pour les libertés constitutionnelles rappelle le caractère essentiel de la primauté parentale. Alors, parle-nous un peu de cet article qui traite d'une question très controversée.
Oui, bien, on voit que le débat continue au Canada et ailleurs en Occident sur la question trans, en particulier chez les jeunes. Le Canada, lui, continue, si on peut dire, sur la voie woke, là, contrairement... On l'a vu récemment à l'Angleterre qui, elle, est en train tranquillement de mettre la pédale douce là, sur la promotion du transgenrisme chez les enfants. Donc, il y a un nouveau litige au Nouveau-Brunswick. L'Association canadienne pour les libertés civiles veut faire abolir la loi. Enfin, c'est une politique, la politique 713 du Nouveau-Brunswick, qui exige le consentement des parents pour que les enfants de moins de 16 ans, les ados de moins de 16 ans, disons, puissent officiellement utiliser des pronoms ou d'autres noms à l'école. Donc, les fameux changements de sexe qui passent par un changement de prénom. Là, moi, ça semble être une des premières étapes. Donc, il y a un litige et le Centre des libertés le Centre juridique pour la liberté constitutionnelle, lui, appuie deux organismes qui veulent défendre finalement cette politique. Une politique qui ressemble un peu à celle qu'on a en Alberta. Donc, c'est des politiques qui ont été décrites comme assez conservatrices, mais qui, selon moi et selon, disons, la politique éditoriale de Libre Média, relèvent essentiellement du gros bon sens. Donc, tout ça pour dire que, on a vu une régression des droits parentaux et de la primauté parentale au Canada dans les dernières années. Même le site du gouvernement fédéral, Francis, invitait, écoute, on l'avait sorti de Libre Média, conseillait aux enseignants canadiens de cacher même aux parents que leur enfant avait changé de sexe s'ils sentaient ces enseignants-là. Que les parents pouvaient être réfractaires à l'idée d'un changement de sexe chez leur propre enfant. Donc, tu sais, vraiment, il y a une régression de la primauté parentale. Les parents en mènent de moins en moins large face à un État qui s'étend et qui s'étend jusqu'à... qui s'intéresse à des questions finalement sexuelles chez des jeunes enfants. Encore là, on s'interroge quand même sur l'extension du domaine de l'État, toujours plus étouffante. Donc, c'est un article qu'il faut lire pour, encore une fois, disons, voir que la question est encore d'actualité et qu'il y a encore une sorte de combat, si je peux dire, entre les gens qui veulent plus de transparence de l'école, plus de transparence de l'État, moins d'ingérence de l'État et ceux qui pensent que, finalement, c'est le gouvernement qui peut décider si de la légitimité ou non de votre enfant changer de sexe. Donc, bref, allez lire ça, parce que c'est ça, la joute, si vous voulez, continue.
Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que, d'une certaine façon, en se substituant entre l'État, lorsqu'il demande aux professeurs de cacher certaines informations cruciales pour la santé des enfants eux-mêmes, aux parents, aux premiers responsables de l'éducation et de la prise en charge et de prise de soins et lieu de la transmission de l'amour, la primordiale qu'est la famille, d'une certaine façon, on ne peut pas penser que les relations parents éducateurs, parents, professeurs vont bien aller. Il va nécessairement avoir on va nécessairement passer d'une relation de confiance entre parents et éducateurs à une relation de méfiance qui peut avoir des effets délétères sur l'ensemble des relations et du système d'éducation en général. Et donc, déjà là, on a affaire à des étudiants qui souvent sortent de l'école analphabète, presque. Donc, peut-être que ça n'améliorera pas la situation que de commencer à complexifier davantage la relation parent-professeur.
C'est un bon point parce qu'on sait que les enseignants se plaignent beaucoup depuis quelques années effectivement, de ne plus avoir la confiance des parents qui, eux, bon, les parents sont de plus en plus exigeants. Ils voudraient évidemment que leurs enfants performent dans tous les domaines qui existent. On veut des cours de tout ce qui existe. L'école doit... C'est un peu le paradoxe aussi, c'est-à-dire que c'est un peu de notre faute, si je peux dire. On a beaucoup aussi... on attend beaucoup de l'État, c'est-à-dire est-ce que c'est à l'État d'offrir des cours de natation à votre enfant, des cours de ci, des cours de ça? Est-ce que c'est à l'État de faire de votre enfant finalement un prochain prix Nobel? Évidemment que la formation dispensée doit être excellente, mais c'est aussi aux parents. Donc, peut-être qu'on est allé un peu trop loin, Francis, dans ce qu'on donne à l'État comme prérogative et peut-être en faire un peu plus à la maison. Donc, c'est sûr, quand on va porter son enfant à 7 heures à la garderie, puis on va le chercher à 18 heures, vous comprenez que ce n'est pas une logique qui vous préserve la primauté parentale. Donc, ça, c'est le tout à l'État, finalement. Donc, oui, puis la relation parent-élève... oui, est au centre aussi des débats. Là.
Cette question des enfants trans, c'est la question du transhumanisme et du transsexualisme. C'est une question qui est traitée sur Libre Média. Donc, avis aux intéressés, enfants trans, la primauté parentale est cruciale. Un article à lire sur la plateforme de Libre Média au libre-media.com. Comme deuxième sujet de ce podcast de cette semaine, mon cher Jérôme, nous avons avec nous Robert Béliveau. Robert Béliveau, vous êtes un médecin, vous cumulez 38 ans de pratique à titre de médecin de famille, mais durant l'épisode dramatique de la COVID, vous avez été malgré vous présenté comme un opposant au régime sanitariste. Il y a une entrevue qui se trouve avec vous sous forme écrite sur le site de Libre Média ou libre-media.com. Mais pouvez-vous simplement brièvement nous présenter un peu la chronologie des événements et où est-ce qu'en est votre dossier à l'heure actuelle, Robert Béliveau?
Écoute, d'abord, merci de l'invitation. Écoutez, je suis dans un processus. D'abord, quand on m'appelle Dr. Robert Béliveau, là, je rectifie tout de suite, je suis médecin inactif. Je suis médecin retraité officiellement, là, c'est-à-dire que je ne paye plus de frais. Là. Même comme médecin inactif, on paye un frais de 129 $ par année, dans le fond, pour recevoir les communications du Collège des médecins. Puis c'était ça mon intention, mais c'est depuis 2018 que je suis retraité, en fait. J'ai gardé le statut de médecin inactif. Et puis en 2022, suite à deux plaintes que j'ai eues, d'une citoyenne au Collège des médecins, au syndic, et puis ils m'ont fait quelques recommandations pour mes communications à travers différents médias, radio et réseaux sociaux, de moduler certains propos que j'avais. Et puis, ce que j'ai toujours tenté de faire, là, d'avoir des propos qui tiennent la route là, sur le plan scientifique, bien sûr. Et puis, je m'opposais au régime sanitaire quand les mesures qui étaient imposées n'allaient pas dans le sens de la science. Là, tu sais, la science a déjà énormément de documents, en particulier la collaboration Cochrane, qui a publié un vaste document de plus de 400 pages sous la gouverne de Tom Jefferson, qui est un vieux de la vieille, là, t'sais, vraiment un incorruptible, puis qui a écrit sur toutes les mesures non pharmaceutiques pour pouvoir essayer de réduire à minima les dommages lors de pandémie, parmi lesquels le masque a été évalué, la distanciation sociale a été évaluée. Toutes les mesures qui ont été invoquées et puis qui ont été imposées, il n'y en a aucune qui tient la route. Et puis le rapport qu'ils ont fourni à la collaboration Cochrane en janvier 2020, soit dit en passant, Ils ont été remisés, ils ont été mis sur hold quasiment là, jusqu'en octobre 2020, après que les mesures aient été prises pour une décision, par une décision que les organisateurs, enfin les membres les plus influents de la collaboration Cochrane ont trouvé nécessaire, justifié de retarder la publication de ce document-là qui était tout à fait prêt en 2020. Et puis Tom Jefferson ne décolère pas depuis ce temps-là. Il ne voit pas la raison pour laquelle ça a été mis de côté. Et puis ça a permis la mise en place de toute une série de mesures qui ne tenaient pas la route, là, qui n'ont jamais tenu la route, en particulier le masque, mais qui a été imposé, puis qui faisait miroiter à la population aussi un danger tout le temps qui était présent. Et alors, c'était le règne de la peur. Et puis, il y a un cardiologue belge qui a écrit un livre, « La pandémie du mensonge et de la peur ». Ça a été véritablement orchestré pour faire générer une peur quasi panique dans la population. Et j'ai essayé d'avoir un autre regard sur cet épisode-là, cette chronique, un regard rassurant, à telle enseigne que j'ai été un peu traité de rassuriste, alors qu'il était de bon ton d'être alarmiste plutôt que rassuré. Je regardais ce qui se passait, puis il y avait de fait une population qui était à risque, mais c'est la population des personnes qui avaient plus de 80 ans avec des comorbidités. C'est eux autres qui étaient le plus affectés par ces mesures-là. Et puis d'ailleurs, en 2020, il y a eu la déclaration de Great Barrington, là, où il y avait trois sommités là, médicales. Qui vient d'Oxford, elle a un nom indien. Il y avait aussi Jay Bhattacharya de Stanford. Et puis, il y en avait un autre de Harvard aussi, Martin Kulldorff, qui ont publié la déclaration de Great Barrington, avec laquelle j'étais tout à fait en accord et que j'ai signé, qui a été signée par plus de 900 000 personnes. Et il y avait plus de 60 000 professionnels, médecins qui ont signé ça. Tout ça pour dire qu'il n'y avait pas de consensus, évidemment. Comme il n'y a jamais de consensus en médecine, il y a des dissensus et c'est la place du dissensus, la médecine, c'est la discussion ouverte. Alors que là, il n'y avait plus de place pour aucune discussion et quelqu'un qui même posait une question était tout de suite catalogué, étiqueté de complotiste ou je ne sais pas quoi pour disqualifier tout ce qu'elle allait dire. Alors, c'est dans ce contexte-là que j'ai commencé à agir, moi, et surtout quand ils sont mis à attaquer les enfants, à imposer le masque dans les écoles, dans les classes, alors que les enfants n'étaient absolument pas affectés de cette maladie-là. Il y avait beaucoup moins de danger qu'avec l'influenza en ce qui concerne les enfants. Il n'y a pas d'enfants qui sont morts de ça au Québec. Et puis d'imposer les masques aux enfants, ça m'a fait réagir fortement. Et puis c'est là que j'ai pris la parole à Québec pour la première fois. Là, je pense que c'était en été 2020 ou 2021, je ne me rappelle plus. Voilà.
Donc, Robert Béliveau, vous avez reçu trois plaintes en tout, c'est ça? Et c'est la troisième plainte qui a mené au fameux litige que vous avez actuellement avec le Collège des médecins. Donc, il va y avoir une audience durant laquelle vous allez avoir l'occasion de vous défendre. Bon, on peut parler du cadre de cette audience-là qui peut-être prend la forme d'un procès, un peu comme, bon, évidemment, on connaît tous le cas de Patrick Provost, là. C'est bien ça, trois plaintes. C'est la troisième plainte qui a mené à ce litige-là. Et pourquoi vous avez décidé plus récemment de publiciser vraiment de manière plus large cet incident-là que vous avez?
Ben, je pense que ce qui est attaqué, c'est pas Robert Béliveau. Là. Tu sais, moi, mon cas personnel, très honnêtement, là, c'est pas ça que je défends. C'est le droit de parole, le droit de discuter, le droit de débattre aussi, qui est au cœur de la médecine depuis toujours. Et puis, le 16 janvier, j'ai reçu de la part d'un huissier qui est venu porter chez moi une requête, une plainte formelle de la part d'une syndic ad hoc qui est venu me faire paraître là, au conseil de discipline. Alors, voyez-vous, je suis retraité et puis je suis convoqué au conseil de discipline du Collège des médecins.
Il faut le rappeler, que ce soit très clair pour les gens. Donc, quand vous recevez votre troisième plainte, vous ne figurez plus à ce moment-là au tableau du Collège des médecins. Donc, parce qu'après les deux premières plaintes, vous décidez d'abandonner votre statut de médecin retraité. Donc, déjà, vous étiez retraité.
Oui,
Vous m'aviez avoué dans l'entrevue qu'on a réalisée à Oaxaca que, bon, évidemment, le fait d'être retraité, vous aviez donné une certaine autonomie, là, une liberté de parole que, bon, vos collègues pratiquants n'avaient pas. Donc, c'est quand même incroyable qu'on vous fasse, en quelque sorte, un procès. Moi, j'utilise cette formule-là. Alors que vous n'êtes plus du tout actif.
Absolument. T'sais, d'ailleurs, dans le procès verbal, le premier procès verbal, au moment où j'étais au Mexique, le 16 mars, ça s'est fait par Teams. Et puis, le président en chef a pris note, puis il me rappelle que l'intimé ne pratique pas et que la protection du public n'est pas en jeu. Comprenez-moi bien, là, le but, l'objectif, enfin, la mission fondamentale du Collège des médecins, c'est la protection du public. Et puis, il dit très clairement que la protection du public n'est pas en jeu. Alors, comment peuvent-ils à la fois dire ça et me convoquer? Alors évidemment, suite à ça, il y a eu un deuxième procès verbal pour un appel, je ne me rappelle plus comment ils appellent ça, en tout cas, peu importe le nom, là. J'ai pris contact quand je suis revenu au Québec, j'ai pris contact avec une avocate, et puis quand j'ai vu les tarifs assez exorbitants des avocats, là, 425 $ de l'heure, alors que je suis, moi, tout ce que je fais depuis 4 ans, c'est complètement gratuit, là, c'est bénévole, et puis on ne se fait pas payer pour rien. C'est en tant que citoyen que je m'adresse et non pas en tant que médecin, mais j'ai évidemment une certaine capacité de lire les revues scientifiques. Et puis, c'est ce que j'ai fait ardemment, et essayer d'apporter un renseignement qui est plus conforme à la réalité, là, qui est moins dans la désinformation et la mésinformation. Et puis, je me fais attaquer pour ça. Alors, c'est la parole qu'on attaque véritablement, puis c'est la science qu'on attaque.
Vous dites, on n'attaque pas Robert Béliveau. Pour vous, comment vous interprétez l'action du Collège des médecins face à vous, face à ce que vous représentez? Pour vous, c'est une manière de faire un exemple, de museler, d'envoyer un message à ceux qui pratiquent. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on vise?
Probablement. Il y a de ça, certainement. Tu sais, quand je regarde ce qui se passe pour mon ami Patrick Provost à l'Université Laval, il y a eu 21 journées complètes parce qu'il y avait témoigné. En fait, il y avait, en tant qu'expert de nanoparticules lipidiques et puis de l'ARN messager, il s'est prononcé quand il a vu que les enfants, ont convoqué les enfants à la vaccination, alors qu'il était à ce moment-là très clair que la vaccination ne prévenait pas la transmission, et puis qu'ils sont allés de l'avant pour imposer quasiment l'injection aux enfants avec une plateforme qu'on ne connaît absolument pas parce qu'on n'avait pas jamais utilisé cette plateforme-là d'ARN messager dans la population humaine. Alors, et que les études se sont faites très rapidement et qu'après 2 mois d'études, on a pu énoncer le slogan qu'on a utilisé depuis 4 ans et qu'on continue d'utiliser « safe and effective », efficace et sans danger, là. Alors, écoutez, on ne peut pas, après 2 mois de recul, énoncer comme une certitude quelque chose comme ça. Alors, j'ai dénoncé ça. Et c'est moi qui ai convoqué, à me défendre. Alors, on est dans quelque chose de complètement dystopique en ce qui me concerne. Je vais essayer de défendre la parole populaire.
Ouais, c'est ça, ce qu'on veut savoir, M. Béliveau, votre stratégie que vous voulez adopter pour vous défendre. On en avait discuté ensemble un peu en coulisses, à off, comme on dit, là.
Il n'y a rien d'arrêté.
Vous m'avez dit, est-ce que j'y vais sur le juridique? On est peut-être un peu d'inconfidence ici, là, mais vous m'avez dit, est-ce que j'y vais d'une perspective juridique ou j'attaque plutôt le principe? Est-ce que votre réflexion est faite?
Ben oui, ma réflexion est faite. La question qui demeure ouverte, c'est est-ce que je me fais accompagner d'un avocat ou non? Et ma tendance actuelle, en tout cas, ce que je pense que je vais faire, c'est de me présenter seul, sans avocat, pour ne pas arriver sur le territoire du droit, dans le fond. Parce que le droit, de tout ce que j'ai vu amener jusqu'à date au Québec, et pas juste au Québec, au Canada, aux États-Unis, un peu partout, aller sur le terrain du droit, c'est quasiment se faire ramasser. Moi, si je vais se faire ramasser, peu importe les arguments qu'on a, on est condamné quasiment au départ. Alors, je me suis dit, je vais me présenter comme citoyen parce que je ne suis que citoyen, puis je n'irai pas dépenser, me ruiner en frais d'avocat pour une...
Il y a une cagnotte. Les gens se posent la question, là, je suis certain, les auditeurs se demandent, est-ce qu'on peut aider Robert Béliveau? Y a-t-il une cagnotte? Y a-t-il une levée de fonds, comme on dit?
Pour le moment, non, parce que tant que je n'ai pas décidé de me faire accompagner d'un avocat, on va commencer par faire une requête en rejet. Une requête en rejet, c'est simplement dire, cette plainte-là n'est pas justifiée, ne tient pas la route, et puis on me dit que j'ai eu des propos qui étaient à l'encontre de la science. Alors que la science, il y a toujours deux côtés à la médaille. Il peut y avoir un consensus entre certains experts, mais il n'y a jamais de consensus dans 100% des cas et que toute la médecine est d'accord avec ça. T'sais, c'est pour ça que Jay Bhattacharya et puis Martin Kulda, Sunita Gupta aussi, là, son nom est revenu, là, ils ont publié la déclaration de Great Barrington. C'est pour dire qu'il n'y a pas de consensus. Le consensus n'existe jamais en médecine. On s'adresse à un cas particulier tout le temps. Alors, il n'y a rien qui est bon pour 100% de la population. Et quand on dit qu'il y a un consensus, il peut y avoir un consensus chez les hommes d'affaires, bien sûr. Mais en médecine, c'est celle du dissensus, puis de voir si la solution qu'on veut apporter à un problème qui en est pas un, parce que chez quelqu'un qui est pas malade, et puis les vaccins, ça s'adresse de fait à des gens qui sont pas malades, et pour lesquels on a une intervention qui veut empêcher l'apparition d'une maladie ou la transmission d'une maladie. Et puis, on le sait maintenant, après 4 ans, on sait clairement que ça n'empêche ni un ni l'autre, ni d'être malade, transmettre. Alors, qu'on m'accuse de ne pas avoir suivi la science, je voudrais bien savoir où et quand.
Trouvez-vous quand même, Robert Béliveau, qu'il y a eu une certaine évolution là, par rapport au vaccin, là, c'est-à-dire...
Est-ce
qu'on a un peu plus conscience au Québec actuellement du caractère, très, très moyen là, et voire inefficace de ces fameux vaccins?
Ben, c'est clair. Et puis les données sont ça sort de partout. Sauf que Monsieur Boileau, le docteur Boileau, continue avec son même message. Ça n'a pas d'effet secondaire. Et puis, c'est comme si les autorités restent avec le même discours. On a fait parvenir à Réinfo Québec, on a fait parvenir aux 25 000 médecins de la province une lettre leur disant là, ce qui se passe au niveau de cette injection-là, et qu'on a fait un appel à un moratoire pour nous, là, c'est arrêter ça. On sait qu'il y a une contamination en plus de ça, de ces vaccins-là. C'est scandaleux ce qui se passe. Et puis le fait que je sois convoqué, c'est un scandale de plus chez des gens. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent à faire. peut-être bâillonner tout le monde, museler tout le monde. C'est un peu le cas là, à l'Université Laval. Qu'est-ce qui fait que le docteur, le docteur, parce qu'il y a un doctorat, là, Provost, Patrick Provost, le professeur Provost, est harcelé à ce point-là pour avoir simplement énoncé qu'il faudrait être prudent dans la vaccination, en particulier pour les femmes enceintes et pour les enfants qui ne sont absolument pas à risque. Et puis on a toujours fait très attention aux femmes enceintes. Et là, on arrive avec une plateforme nouvelle et puis j'ai une de mes...
Robert Béliveau, justement, vous avez mentionné le cas de Patrick Provost. Il y a un autre cas, par exemple, dans le Canada anglais, peut-être dans un autre domaine, celui de la psychologie cette fois, avec Jordan B. Peterson qui s'est fait, justement, il y a eu un procès, il a décidé de se défendre et très médiatisé, dont la couverture est disponible, notamment sur quelques articles que j'ai écrits sur Libre Média au www.libre-media.com. Mais pour vous, Robert Béliveau, qu'est-ce que ça veut dire, cette perte de cette instrumentalisation des corps professionnels d'une part et cette réduction de la liberté d'expression pour le développement des sciences et pour le débat démocratique en général?
Ben écoute, c'est un glissement extrêmement dangereux pour moi. C'est clair qu'il y a eu une judiciarisation de la science. T'sais. La science, en principe, s'il y a un désaccord, puis j'espère qu'il y a des désaccords et des débats encore dans la science, on invite les personnes à s'exprimer ouvertement, respectueusement, avec ouverture aussi. Et puis, on a le droit d'avoir une idée ou une perception différente de celui qui a écrit l'article, par exemple, où il peut y avoir, bien sûr, dans tous les articles scientifiques, il peut y avoir des biais méthodologiques. D'ailleurs, à ce propos-là, une des autorités en matière de Stanford, John Ioannidis, avait écrit dans la revue PLOS magazine, le Public Library of Science, en 2005, un article qui était incendiaire, qui disait « Pourquoi la plupart des recherches publiées sont fausses? » Alors, ça veut dire qu'il y a, dans toute recherche qui implique un grand nombre de sujets, des biais méthodologiques qui peuvent faire en sorte que c'est pas reproductible. Ce qui a été publié, tu essaies de la reproduire à un autre endroit, puis tu vas avoir des conclusions tout à fait différentes. Alors, tout ça pour dire que c'est pas une science pure, c'est clairement une science appliquée, donc avec beaucoup, beaucoup de nuances, parce qu'un humain, c'est quelque chose d'assez complexe. Hein? C'est quelque chose, on a une génétique, bien sûr, et qui est différente l'un de l'autre. On a des valeurs différentes. On est des petites bébites compliquées. Et puis d'appliquer bêtement quelque chose, c'est un peu comme entre le vaccin et le virus, il y a un humain. Cet humain-là, s'il y a 8 ans, c'est pas le même humain que le vieux monsieur de 88 ans ou 92 ans. Et puis tu peux pas appliquer bêtement, aveuglément, la même stratégie dans les deux cas. Alors c'est ce qu'on a essayé de faire pour des principes qui ont rien à voir avec la science, qui ont à voir avec la politique, avec la business, les affaires. Mais la science, elle, quand il n'y a plus de débat possible, on n'est plus dans la science et puis on est dans la politique.
Ces biais méthodologiques aussi touchent une partie de la philosophie qu'on nomme l'épistémologie. C'est cette partie de la philosophie qui fonde les sciences. Est-ce qu'il n'y a pas une dégradation culturelle, justement, qui fait en sorte que les scientifiques eux-mêmes, ceux qui travaillent dans les recherches, peut-être que c'est dû aussi au problème de la spécialisation qui fait en sorte que ces gens-là qui font de la recherche n'ont plus accès à cette connaissance, générale que donne l'épistémologie. Donc, ils ne savent même plus sur quoi se base la science qu'ils exercent. Mais est-ce qu'il n'y a pas une décadence culturelle aussi ambiante, un manque de culture générale qui fait en sorte que même les scientifiques eux-mêmes ne connaissent pas, ne sont même plus conscients de ces biais humains dont vous parlez, qui peuvent entacher la démarche scientifique elle-même?
Écoute, il y a certainement quelque chose de cet ordre-là. Je pense que c'est absolument essentiel de connaître les limites de la science en ce qui concerne les humains, puis la santé, c'est quelque chose, moi je dis, c'est éco, bio, socio, psycho, spirituel. Il y a toutes ces dimensions-là chez l'humain et puis il n'y a pas une seule recherche qui peut tenir compte de toutes ces variables-là. On est dans quelque chose d'extraordinairement complexe Et puis, je pense qu'il faut, il faut reconnaître qu'il y a une capture actuellement de la science par l'entreprise pharmacologique. Et à telle enseigne que, tu sais, en 2004, l'éditeur en chef, la rédactrice en chef du New England Journal of Medicine, qui était considérée comme la revue la plus prestigieuse avec le Lancet et puis le British Medical Journal, qui sont des grandes revues scientifiques. Mais le Lancet, il y a eu le Lancet Gate qui s'est produit en 2020. Tu comprends? Il y a eu une capture, là, et puis elle a, en tout cas, Marcia Angel, qui était l'éditeur en chef, a claqué la porte en 2004, et puis après 15 ans, elle a dit « il n'y a plus de science ». Puis elle a écrit un livre qu'il faut lire, « La vérité sur les compagnies pharmaceutiques », qui est un pavé dans la mare, puis qui a dit « écoutez, il y a un danger ». Puis ça, c'était en 2004, on est rendu en 2024, ça s'est juste amplifié. Et il y a une chaire Pfizer à l'Université de Montréal, tu comprends? Ils subventionnent les universités, puis après ça, ben c'est pas un acte caritatif. Ça fait partie du plan d'affaires et puis ça entache la formation en médecine, en pharmacologie, etc. Et je suis pas sûr que mon vieux professeur Pierre Biron, qui est retraité depuis un grand bout de temps, puis qui avait un regard très critique et puis qui l'a conservé jusqu'à il y a quelques années, j'en entends plus parler actuellement, j'espère qu'il est en bonne santé encore, mais il a toujours dit, c'était sa règle et sa règle d'or, ne toucher jamais à quelque chose qui n'a pas été essayé, testé depuis au moins, mis sur le marché depuis au moins 7 ans. Parce qu'il y a beaucoup, quand on fait des recherches, ça se peut qu'il y ait des biais méthodologiques, qu'on fasse du cherry picking, qu'on trafique les chiffres aussi, et puis que ça vienne sur le marché. Mais quand c'est sur le marché, c'est utilisé évidemment par beaucoup plus de personnes. Et puis là, les effets secondaires peuvent apparaître qui ont été un peu sous-estimés. Les effets bénéfiques ont souvent été surestimés. Alors, c'est le temps qui nous donne les réponses. Et là, on n'est pas dans le temps. Là. On a produit ça à la vitesse de l'éclair. Warp speed, disait Trump. On va faire ça, on va couper court aux recherches. Mais tu ne peux pas couper court aux recherches parce que le temps, c'est ça qui nous donne les réponses. Et on a bousculé les choses, les gens, puis on a utilisé des slogans pour vendre ça à la population en médisant, en disant pas à la population que c'est un organisme génétiquement modifié qu'on utilise, qui va pirater les cellules pour fabriquer des protéines spike qui sont toxiques. Alors, si on avait dit ça à la population, je suis certain qu'il n'y aurait pas eu une adhésion aussi importante que celle. Alors, on a désinformé la population. Et à Réinfo Québec, c'est ça notre mission, c'est de donner une information sans conflit d'intérêt.
Robert Béliveau, résister à la marchandisation du savoir et du savoir médical en particulier. C'est ce qu'on retient de notre entretien aujourd'hui. Pour ceux qui voudraient suivre votre cas et votre combat, bien évidemment, à Libre Média, nous allons vous suivre dans les différentes étapes qui vous attendent. Alors, Robert Béliveau, bon courage et merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Bien, merci à vous et puis continuez Libre Média. Il faut libérer la parole puis la circulation de la parole. Merci.
Libre Média, c'est beaucoup plus qu'un site web. C'est votre porte d'entrée dans l'univers médiatique. À Libre Média, nous croyons qu'il faut vous donner les moyens d'accéder aux informations qui comptent pour vous. Gardez une longueur d'avance grâce à nos analyses approfondies et à notre couverture exhaustive. Pour tous les détails, visitez notre site web au libre-media.com. Aimez, partagez, abonnez-vous dès maintenant. Libre Média, parce que vos choix sont importants.
Dans ce segment du Libre Podcast, nous avons la joie d'être en compagnie de Vincent Geloso, l'économiste. Bonjour, Vincent Geloso.
Bonjour.
Alors, vous avez publié sur Libre Média, au libre-media.com, un article intitulé « Engagement et promesses crédibles, les clés de la souveraineté ». Alors, vous êtes vous-même économiste et professeur à l'Université George Mason aux États-Unis, mais vous êtes Québécois, bien entendu, on l'entend. Et alors, justement, selon vous, Il faut d'abord détailler économiquement, et c'est ce que vous, c'est l'exercice auquel vous vous êtes prêté lorsque vous avez parlé de souveraineté. Pour vous, détailler un plan économique de souveraineté, c'est important. Alors, quelles sont vos perspectives là, généralement sur la question de la souveraineté et la survie du Québec, la survie économique du Québec dans un cadre de souveraineté?
La première chose que je dois souligner, c'est que quand on regarde la littérature empirique sur les mouvements souverainistes, en moyenne, les mouvements souverainistes imposent des contractions économiques importantes pour les nations qui ont ces mouvements. Ceci, par contre, n'est pas vrai lorsque les mouvements souverainistes sont dans des domaines, sont pacifiques et utilisent des moyens démocratiques légitimes. Dans des tels cas, l'effet de la souveraineté, de l'indépendance est entre zéro, donc pas d'effet négatif, pas d'effet positif, et des modestes effets positifs. La raison pourquoi ce résultat-là peut être expliqué, c'est que pour gagner, le souverainiste, l'indépendantiste, celui qui veut la sécession, doit par définition minimiser les coûts de transition qui sont perçus par les électeurs, parce que sinon, il ne peut pas gagner et elle ne peut pas se réaliser. Et ça, c'est une chose que le Parti québécois ne comprend pas, puisqu'il continue à essayer de coller vers les extrêmes, vers des groupes qui sont éloignés de l'électeur médian et donc réduit les chances que la souveraineté se concrétise.
Vous avez une vision très froide, là, disons, de la chose. C'est peut-être ce qu'il faut.
Économiste, c'est littéralement mon expertise.
Parce que, tu sais, c'est ce qu'on peut, bon, disons, vous répondre. C'est un peu, bon, on invite évidemment toujours les gens à aller lire aussi hein, les textes qui sont sur Libre Média parce qu'évidemment, la lecture offre une perspective qu'on n'a pas toujours à l'oral. Je le répète, c'est important. Mais vous êtes un peu dans la théorie des choix rationnels, hein, c'est-à-dire donc une logique froide qui critique aussi là, un peu la vision un peu messianique hein, finalement de la souveraineté, donc le recours à des à l'histoire pour recréer bon une sorte d'affrontement entre forcément la Nouvelle-France puis la Nouvelle-Angleterre. Là, si je résume, c'est un peu grossier là, l'Empire britannique, c'est-à-dire donc mais vous persistez signer là, c'est-à-dire c'est vraiment avec une logique froide et même, j'ai envie de dire, machiavélique, qu'on va faire la souveraineté du Québec.
Bien, en fait, je n'ai pas de problème avec l'importance des idées. Ça serait faux de dire que les idées n'ont pas un rôle à jouer. Donc, le discours qui se centre autour des idées a une pertinence. Donc, je ne veux pas mettre ça de côté. Mais le point, c'est que le discours, présentement, parle à un certain groupe de personnes. Le discours revanchard, qui est souvent utilisé, peut très bien parler à des Pierre Bourgault, à des Pierre Falardeau, à des gens qui ont été beaucoup plus intenses en termes de leur attachement à la souveraineté. Mais ces gens-là vont voter pour le oui, peu importe le discours qui est utilisé, ils vont le vouloir indépendamment. Pour gagner, on ne gagne jamais en se collant sur des Pierre Bourgault, sur des Pierre Falardeau. En fait, René Lévesque lui-même le reconnaissait, adoptait une approche beaucoup plus calculatrice comme la mienne, que pour gagner, il faut se coller sur l'électeur médian et donc de crédibiliser le discours pour la personne qui est plus marginale dans son adhésion ou son support à la souveraineté ou son opposition à la souveraineté, qu'elle peut être convaincue. Et c'est pour ça que je dis que la seule manière de faire ça, c'est parce qu'on est conscient des coûts et des bénéfices de rester à l'intérieur du Canada. On est conscient des bénéfices potentiels de la souveraineté. La seule chose qui est incertaine, c'est les coûts de transition associés avec la souveraineté. Et le comportement des joueurs est très facile à expliquer. Un souverainiste ne peut que gagner qu'en minimisant la perception des coûts. Il doit expliquer clairement comment est-ce qu'il va tout faire pour s'attacher les mains pour que les coûts soient minimes, alors que le fédéral, lui, a un jeu beaucoup plus facile. Tout ce qu'il a à faire, c'est se promettre d'agir en faisant des folies, en promettant des représailles, en promettant, en disant, par exemple, le Québec ne fera pas partie de l'accord de libre-échange nord-américain, on va reconnaître la partition du territoire, on va vous vendre nos actifs fédéraux qui sont au Québec, mais à très haut prix. Tout ça fait en sorte que pour l'électeur médian, les promesses du fédéral font en sorte que ça les refroidit. La seule chose que le souverainiste peut contrôler, c'est comment est-ce que lui dit qu'il va éviter d'imposer des coûts additionnels. Et c'est la seule chose qu'il peut contrôler.
Mais justement, comment percevoir ça? Parce qu'on voit que le Parti québécois, qui est le fer de lance de la souveraineté actuellement, parce qu'on ne peut pas penser que, disons, QS est véritablement un promoteur crédible au niveau de la souveraineté. Comment comprendre, justement, si il faut, pour convaincre l'électeur moyen, présenter un plan rationnel, économiquement viable de la souveraineté, comment interpréter le fait qu'un PSPP aujourd'hui se rallie à ce qu'il y a de plus extrême dans la gauche, et du mouvement environnemental en prenant quasiment ce qui pourrait matériellement être perçu comme de la décroissance et comment concilier cette approche et disons, est-ce que PSPP, selon vous, a une stratégie gagnante pour convaincre l'électeur moyen du bien fondé économique de la souveraineté, selon vous?
Non, parce que regardez, on regarde les sondages depuis les dernières, disons, 30 ans au Québec, le oui est assez stable. Il y a quelques épisodes, notamment autour du scandale des commandites, dans lequel il y a eu un surgissement, mais qui s'est très ralenti par la suite. C'est toujours à peu près la même proportion. Ça, c'est la proportion de gens que, si on dit qu'on veut faire un Québec conservateur souverain ou un Québec de gauche souverain, ils vont voter pour le oui quand même. C'est les purs et durs. C'est ceux qui ne changeront pas de position. Le milieu qui est plus soft, c'est ceux qui ont peur des coûts de la transition. Et ça veut dire qu'ils ont peur de, souvent, par exemple, ça va inclure des gens plus sociaux-démocrates qui se soucient un peu. Donc, ça peut inclure la gauche plus modérée, donc ce qu'on pourrait appeler la gauche libérale un peu. Je ne sais pas comment définir ça autrement que ça, dans l'espèce d'espace flou qu'on a aujourd'hui entre les différents discours qui existent, notamment à l'égard de la démocratie, mais ceux qui ont un attachement sévère aux libertés individuelles, qui ont peur de ce qu'on pourrait appeler les caribous, les souverainistes les plus extrêmes qui se mettraient à faire des transgressions des libertés individuelles. Simultanément, les libéraux plus de droite qui s'inquiètent que Québec solidaire soit dans le siège du conducteur lors de la souveraineté et que ce soit à toute fin pratique un chèque en blanc. La solution que moi je préconise, c'est de dire clairement en avance ce que le chef du PQ ne fera pas, le chef du mouvement souverainiste ne fera pas, c'est-à-dire qu'il doit se commettre en avance à ne pas faire certaines choses pour minimiser les coûts de transition. Ça veut dire d'arrêter de proposer des gros changements, par exemple, ça veut dire abandonner la phrase du Québec souverain, égalitaire, vert. Il doit arrêter de promettre ça. Il doit en fait minimiser le plus possible. Ça pourrait dire, par exemple, qu'on garde le cadre constitutionnel britannique tel quel. Ça inclut garder le roi comme chef d'État pour les prochaines 30 ans. Donc, on s'attache les mains. Qu'une chambre haute va être créée. Qu'on va juste essayer de calquer l'entièreté de ce qu'on fait pour que lorsque le vote sur la souveraineté va se produire, la seule question qui est en jeu, c'est pas quelles seront les institutions demain matin, c'est avec quels autres Canadiens allons-nous choisir? Le but, c'est de minimiser cette question-là avec seulement les Canadiens qui sont au Québec.
Ça touche, bon, la question de la Constitution, là, que dans Yann et Frank, le podcast auquel vous contribuez, on a parlé beaucoup de ça, là, cette fameuse Constitution québécoise. Bon, le courant plus à droite auquel appartient Yann et Frank, est très soucieux là, d'avoir une constitution qui vraiment respecterait ce qu'on appelait le libéralisme, si ça a encore un sens aujourd'hui, parce qu'on sait bon, qu'il y a eu beaucoup d'atteintes aux droits et libertés puis, dans les dernières années. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire sur le plan économique dans une constitution qui respecterait le libre marché? Est-ce qu'il y a quelque chose,
un volet à ce niveau-là? Ça peut être encore plus simple que ça, c'est qu'on dit qu'on reprend tout le cadre constitutionnel canadien et copier-coller pour le cas québécois après la souveraineté, c'est-à-dire qu'on fait juste reproduire ce qui se passe dans le reste, à l'intérieur du Canada.
C'est ce que vous préconisez, là.
C'est la manière la plus simple de...
Selon la théorie que vous employez des...
Exactement. L'analyse rationnelle, ça minimise les coûts parce qu'on dit, garde, tout ce qu'on a présentement, c'est conservé tel quel. C'est pas pour faire X ou Y, Z pour les prochaines 30 ans. Donc, on garde le code criminel canadien. On garde notre code civil tel quel. On instaure une chambre haute qui serait l'équivalent du Sénat canadien. Les régions administratives deviennent du Québec, donc la région 16 pour la Montérégie, par exemple, deviennent l'équivalent d'une province, ont leur propre législature au niveau local. Donc, on fait juste garder le plus possible le cadre institutionnel. Tout ce
mais
qu'on
ça, c'est pas
change.
Un peu gros, ça? Excusez-moi, la Fédération québécoise, bon, d'ailleurs, c'est le projet de Guy Bertrand, là, le fameux avocat très connu là, à Québec, qui lui propose carrément une fédération québécoise. Mais c'est gros, ça, c'est-à-dire avoir des parlements, tout ça, ça me semble... Là, vous
dites, un peu comme la Suisse, peut-être. Là,
c'est pas minimiser les coûts, là, c'est plutôt ambitieux quand
non,
même,
non,
une fédération.
En fait, c'est non. De garder tout notre passé institutionnel britannique. C'est-à-dire que notre passé institutionnel britannique, c'est tout notre système parlementaire tel quel. Est-ce que, tu sais, par exemple, j'ai peut-être exagéré, j'utilise un exemple extrême avec les régions administratives, mais l'idée, c'est qu'on garde un certain degré de décentralisation. Mais par exemple, tu sais, ce que je peux montrer, qu'est-ce que ça ne voudrait pas dire, il y a beaucoup de souverainistes qui veulent calquer un système républicain à la française. Il y a une portion non négligeable des souverainistes qui veulent un tel système présidentiel. Alors que moi, ce que je dis, c'est non. Vous voulez, si vous voulez gagner, vous voulez garder le plus possible de nos traditions telles quelles, sans proposer d'autres changements autres que celui que avec quels autres Canadiens on vote pour nos décisions dans l'avenir. Et le oui devrait se limiter à dire on va juste décider avec les Canadiens qui sont des Québécois aussi. Donc,
comme Christian Dufour, finalement. Christian Dufour, dans une entrevue avec Jérôme Blanchet-Gravel, justement, il avait mentionné son attachement aux institutions parlementaires britanniques. Donc, ça, on garderait ça. Que faites-vous du multiculturalisme? Mais est-ce qu'on le laisse derrière nous?
Écoutez, moi, j'ai une opposition personnelle à l'idée que l'État essaye de gérer. Puis, je suis un libéral classique dans sa définition. J'ai une opposition à ce que l'État se participe aux questions culturelles d'un côté comme de l'autre. Maintenant, qu'est-ce que je ferais avec ça? Je pense que c'est mieux justement de ne pas mélanger multiples questions ensemble. La question de la souveraineté devrait se limiter à le cadre constitutionnel canadien est inefficace. Il a des problèmes qui nous nuisent avec les incitations qu'il génère avec la manière dont on décide à l'intérieur du Canada. Mais ce n'est pas à cause des institutions parlementaires britanniques, ce n'est pas à cause de notre passé institutionnel, c'est uniquement à cause qu'on est un groupe de trop à l'intérieur du Canada. On a des intérêts divergents et donc on devrait décider sans les autres Canadiens de notre avenir. Et c'est de se limiter le plus possible à ça, pas de mélanger d'autres éléments. Surtout que c'est la seule chose que les souverainistes peuvent contrôler. Le reste, le fédéral... C'est lui qui a le beau jeu du bâton, c'est lui qui a juste à se promettre de faire des folies. Présentement, ce qui se passe, puis c'est ça la grande tristesse, je pense, du mouvement souverainiste, c'est que l'espèce de messianisme qui se produit dépend entièrement de la possibilité que le fédéral fasse des erreurs. Et c'est uniquement ça qui se passe présentement, c'est un peu de laisser l'entièreté de nos espoirs comme souverainistes à l'incompétence du gouvernement fédéral. Bien sûr, comme libéral, j'ai aucun problème à dire que les gouvernements sont très incompétents, mais puisque c'est un exercice d'incompétence relative, il faut faire tout l'espoir que l'autre est plus incompétent que nous. Et ça, c'est très difficile de dire que c'est une idée sérieuse.
Déjà à long terme de se baser sur les défauts de l'autre pour amplifier notre propre bonté. Il faut y aller d'une manière positive. Mais quand même, Vincent Gilizzo, puisque vous êtes économiste, pouvez-vous nous donner un ou deux exemples de ces effets négatifs de l'économie canadienne du mode de fonctionnement de l'économie canadienne sur le développement interne au Québec actuellement, et notamment peut-être en soulignant la dette fédérale, à quel point elle a un impact sur notre développement, et est-ce qu'une souveraineté, qu'est-ce qu'on ferait avec cette dette-là? Est-ce qu'on s'en va sans payer?
Premièrement, il y a des conventions très bien établies, c'est la convention de Vienne, j'oublie tout le temps la ville européenne auquel c'est, mais c'est que les actifs, que la dette est divisée de la même manière que les actifs sont faits. Donc, si par exemple 17 % des actifs fédéraux sont au Québec, alors 17 % du passif devra être transféré au Québec. Donc, ça, c'est la convention normale des Nations unies sur comment diviser des actifs et des passifs. Et ça, c'est bien inclus en passant dans le budget de l'ANR. Maintenant, sur l'aspect de Mais qu'est-ce qui nuit le plus? C'est que le cadre fédératif canadien, ce qui cause le plus grand problème, et ça, ça fait de moi un des souverainistes les plus étranges sur Terre, c'est le système de transfert qui existe, tant la péréquation que les autres transferts fédéraux, comme le transfert canadien pour la santé, le transfert canadien pour les programmes sociaux. L'effet qu'il a, c'est que le Québec ne paye pas le plein prix de ses programmes sociaux, donc il se permet de dépenser davantage. Et simultanément, puisque les revenus rentrent indépendamment de la performance économique, des politiques pro-croissance n'ont pas la même attirance, le même appel pour les politiciens. Le résultat, et c'est pour ça que je pense qu'on ferait bien de quitter le Canada, c'est que des parties de tout l'appareil de transferts fédéraux, tant la péréquation que les autres transferts, les politiciens québécois vont avoir des incitations massivement différentes en termes de politique budgétaire, en termes de politique pro-croissance. Et c'est pour ça que moi, je dis que de quitter le Canada, c'est une solution supérieure. Il n'y a aucune manière dans l'économie politique canadienne de voir que ces transferts-là seront réformés. Alors, la seule manière pour nous de devenir une société plus prospère, c'est de justement quitter le Canada pour se départir de toutes les incitations perverses qui viennent avec le fédéralisme via les transferts interprovinciaux et du gouvernement fédéral.
On comprend, Vincent Gelozo, que PSPP, pour vous, n'est pas l'homme de la situation. Là. Pour vous, le PQ actuellement est encore le même parti qui fait appel à de grandes représentations historiques pour stimuler la fibre nationaliste. Pour vous, ce n'est pas votre homme du tout, là, en gros. Là.
Ben, écoutez, je ne sais pas c'est quoi mon homme. Ça serait difficile à dire en toute franchise. Je comprends qu'un politicien doit tout d'abord gagner une élection, et on gagne une élection pas avec 50 % plus 1, mais 33, 34, 35 % comme on peut voir à travers les dernières 5, 6 élections. C'est plausible de gagner avec presque un tiers de l'électorat, donc c'est mieux de jouer une première partie, un peu comme aux États-Unis, quand les candidats se présentent aux primaires, sont toujours un petit peu plus proches de leur base militante, et quand l'élection générale commence, essayent de se recentrer. Mais le problème, c'est qu'il faut considérer, c'est que dans le processus de gagner l'élection, il ne faudrait peut-être pas hypothéquer le référendum. Et présentement, c'est ça la peur que j'ai, c'est que le mouvement souverainiste est en train, avec son effort de courtiser des éléments revanchards, des éléments extrêmes, des éléments qui sont éloignés de l'électeur médian, sont en train d'hypothéquer un futur référendum. Et si on devait sauter tête première dans un autre référendum pour des raisons de politique interne au parti au pouvoir et on se retrouve à le perdre, mais les Québécois seront dramatiquement affaiblis comme collectivité d'avoir perdu un troisième référendum. Et c'est ça que je veux dire par une hypothèque qui est présentement en train de se faire. Et la peur que j'ai, c'est ça. C'est qu'on est en train de prendre une hypothèque de plus contre le référendum qui pourrait nous mener à une situation pire que l'état actuel des choses.
Recentrer la stratégie politique sur la souveraineté elle-même et les arguments économiques qui la soutiennent, c'est ce qu'on retient de votre intervention, Vincent Gelozo. Je vous rappelle que vous êtes économiste à l'Université George Mason aux États-Unis, d'où vous nous rejoignez. J'invite évidemment nos auditeurs à aller lire les différents textes que vous avez écrits sur notre plateforme Libre Média, et notamment le plus récent, intitulé « Engagement et promesses crédibles, les clés de la souveraineté ». Alors, merci beaucoup, Vincent Gelozo, et au plaisir de se reparler bientôt. Les questions économiques sont très importantes et forgent l'avenir politique du Québec. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
C'est un plaisir.
Un dernier article publié sur Libre Média ou libre-media.com, l'Inde et le Japon xénophobes, entre guillemets, selon Biden, la bourde de trop. C'est un article signé Simon Leduc qui manifeste cette phrase prononcée par Joe Biden qui a qualifié la Russie et la Chine d'être des pays xénophobes. Justement, toujours dans ce climat de tension qui monte aux États-Unis à l'approche des élections américaine. Alors, parle-nous un peu de cet article, mon cher Jérôme.
Oui, bien, on est revenu, il fallait revenir sur la déclaration de Joe Biden samedi dernier. Là, Joe Biden a qualifié la Russie, la Chine, mais aussi le Japon et l'Inde de pays xénophobes. Donc, lors d'une récente attaque contre Donald Trump, la Russie, la Chine, disons, c'est moins grave dans le sens où ce ne sont pas des grands alliés.
C'est déjà des gros méchants.
Exactement. Donc là, c'est pas, disons, du moins extraordinaire.
Le business as usual.
Mais le Japon et l'Inde, qui sont des partenaires centraux des États-Unis, disons que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas possible. Là. Vraiment, on a affaire à quelqu'un qui l'échappe complètement, pour parler en québécois. Donc, on a creusé un peu l'affaire. Donc, on a questionné Alexandre Massot, qui est politologue et chercheur associé à l'Observatoire sur les États-Unis de l'UQAM, pour décortiquer un peu, parce qu'on s'est posé la question, est-ce qu'il va y avoir un impact diplomatique, forcément, de cette déclaration? Et on apprend que, bon, l'Inde n'a pas vraiment apprécié la déclaration de Biden, n'entend pas, par contre, rompre ses relations diplomatiques. Le Japon non plus. Mais on comprend que ça n'a pas été bien accueilli par la presse indienne et japonaise. Donc, c'est à l'heure où on parle du monde multipolaire, à l'heure de la montée des BRICS, à l'heure où on se demande si les États-Unis vont être capables de protéger, par exemple, le Taïwan, faire ce genre de déclaration-là est du moins extrêmement...
Risqué, puisque les Américains, justement, par cette mondialisation ou cette multipolarisation de la politique internationale, fait en sorte qu'il a besoin de plus en plus d'alliés. Et donc, c'est une bourde que de s'aliéner des partenaires commerciaux et politiques dans la région.
Oui, c'est une bourde assez incroyable. Et là, après, on se demande, bon, vous lirez l'article, là, parce que, évidemment, ça nous permet de parler de la politique du président indien là, qui lui prône un nationalisme hindou assez fort, assez assumé. Donc, c'est sûr qu'il y a certaines nuances à faire, mais la question, c'est pas... Ça nous permet, en fait, de nous pencher sur, oui, la politique intérieure du Japon et de l'Inde, qui sont effectivement des pays qui n'ont pas, évidemment, une approche multiculturaliste comme au Canada, aux États-Unis. Donc, ce ne sont pas des pays immigrationnistes. Là. Donc, ça nous permet quand même de nous intéresser à ces pays-là. Mais même s'ils étaient xénophobes, très entre guillemets, pour ce que ça veut dire en Occident, ça reste une bourde diplomatique presque historique. Là. Puis l'Inde, ben, rappelons-le, c'est dépassé la Chine en population. C'est le premier pays en population actuellement. Donc, de dire tout bonnement que l'Inde est un pays xénophobe, comprenez, c'est plus d'un milliard de personnes. Là. Donc, allez lire l'article parce que c'est passé sous le radar un peu aussi de nos grands médias.
Oui, surtout si on considère aussi le nombre d'expatriés, d'une certaine façon, d'immigrants indiens un peu partout, notamment aux États-Unis, et leur présence vraiment remarquable à la tête de grandes entreprises. On peut penser notamment à Google et bien d'autres. Alors, pour aller au fond de l'histoire, un article à lire sur Libre Média, l'Inde et le Japon xénophobes, selon Joe Biden, la bourde de trop, point d'interrogation, un texte de Simon Leduc, un texte réservé à nos abonnés, mais dont l'accès vous est disponible pour la modique somme de $4.99 par mois. En terminant, Jérôme, parlez-nous du grand enjeu de la semaine. Alors, comment les Québécois se sont laissés distraire par des faits divers au lieu de s'occuper de ce qui les concerne?
Oui, mon grand enjeu de la semaine va à un article du journal Le Montréal, publié mardi le 7 mai, intitulé « Une centaine de lapins en liberté sèment la pagaille à Latuc ». Donc, après les dindons sauvages de Louisville, c'est une invasion de lapins. Donc, écoute, c'est quelque chose parce que là, il y a eu même un avis qui a été émis aux citoyens. Hein, donc, un avertissement. Faites bien attention. Prenez les précautions qu'il faut pour affronter ces je sais pas, on appelle pas ça une meute de lapins, je sais pas comment on appelle ça, un groupe de lapins, Francis?
Aucune idée. Enfin, ça n'a jamais été une menace dans l'histoire de l'humanité, donc...
Mais c'est un péril, c'était l'un des périls québécois cette semaine auquel on s'est intéressé dans nos grands médias.
Donc, si jamais vous voyez des lapins, bon, le meilleur remède, c'est d'avoir des prédateurs. Donc, ne chassez pas vos prédateurs et vous n'aurez pas d'épidémie de lapins. C'est ce qu'on pourrait, le conseil de chasse et pêche en terminant ce podcast, Jérôme. Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela, comme chaque semaine, nous aide beaucoup à faire connaître et rayonner le podcast. Vous êtes également invité à nous rendre visite au libretradeunionmedia.com, sur X, TikTok, ou si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique, vous pouvez nous rejoindre par l'ensemble des plateformes du groupe Meta. Jérôme, bon week-end à toi.
À toi aussi.
Et à vous tous et toutes, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du Libre Podcast.